Alors si la France ne se gouverne pas dans la rue, le MEDEF vous dit qu'elle s'appauvrit dans la rue. Le MEDEF, bien entendu, dit aux Français de choisir.
À chacun ses idées. Moi, Sophie, enseignante de Châtillon dans le 92, en grève reconductible aujourd'hui et depuis le 6 mai. Je m'oppose à un enseignement inégalitaire régionalisé, régi par les lois du marché local. Je rejette une mainmise des communes ou des régions sur nos collèges et nos lycées, et par là même sur nos conseillers d'orientation psychologues, sur nos médecins scolaires, sur nos assistantes sociales et sur les personnels ATOS. Je me demande qui va suivre. Je refuse la systématisation du recours aux vacataires dans toutes les matières déficitaires, y compris le français et les mathématiques, au mépris de tout suivi pédagogique et de toute continuité. Je refuse que l'éducation ne soit plus nationale, mais ghettoisée, et qu'il ne reste pour seule alternative de réussite à des enfants habitant les zones sinistrées qu'un enseignement privé subventionné par tous, par nos impôts, pour les plus riches. Je veux les mêmes chances pour le plus grand nombre, les mêmes programmes nationaux pour tous. Je défends ce choix de société par la grève et l'occupation de la rue, les seuls moyens qui me soient laissés, puisque le gouvernement a voulu faire passer sa réforme en force, sans aucune discussion ni concertation préalable. Informez-vous, parents, au lieu de rejeter en bloc notre action sur laquelle les médias font généralement silence. Demandez-vous, demandez-nous, pourquoi nous sacrifions nos salaires depuis de nombreux jours? Pourquoi nous nous battons contre l'opinion et le gouvernement au risque de nous mettre tout le monde à dos, à commencer par les enfants qui craignent pour leurs programmes et leurs examens? Approchez-vous des collèges et des lycées en grève. Lisez les panneaux affichés. Demandez nos tracts à vos enfants qui les jettent, pour certains sans même les avoir lus. Venez à nos réunions. Une quinzaine de parents seulement présents dans mon collège à la dernière réunion d'information? Pourquoi? Informez-vous, réagissez, réveillez-vous. Demain, il sera trop tard.
Et le dimanche, comme on a le moral, on porte la grève générale. Lundi, c'est la grève. Mardi, c'est la grève. Mercredi, c'est la grève aussi. Jeudi, c'est la grève. Vendredi, c'est la grève. Samedi, c'est la grève aussi.
Et le dimanche,
comme on a le moral, on porte la grève générale.
Ils bloquent la circulation, ils sont privilégiés, égoïstes, feignants, corporatistes, et ils bloquent aussi France Inter. Et oui, ils ont pris en otage le répondeur de la base, si j'y suis, vous les avez reconnus, ils sont partout, ils manifestent partout, ils manifestent encore à l'heure où je vous parle, et ils sont pris notre répondeur en otage. Et un message aussi nombreux, très nombreux messages sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Si bien qu'on va être obligé de passer encore une fois cette heure avec les messages de ces contestataires.
Bonjour Daniel, je vais être un peu longue, mais je voudrais réagir au propos de la jeune dame ou demoiselle qui faisait allusion vendredi aux privilèges pour lesquels se battent aujourd'hui ceux qui sont dans la rue. Elle faisait sans doute allusion aux privilèges de la fonction publique, puisque depuis quelques semaines, on ne cesse d'opposer deux clans, ceux qui travaillent dans le secteur privé et qui cotisent déjà 40 ans pour une maigre retraite, et les nantis de fonctionnaires qui, eux, ne cotisent que 37 années et demie et qui ont la possibilité pour certains de partir en retraite dès l'âge de 55 ans. Je voudrais lui dire que je suis une directrice de maison de retraite publique, pour qui les 35 heures n'existent que sur le papier, que je travaille entre 12 et 15 heures par jour et que les heures supplémentaires que je fais pour assurer la bonne marche de mon établissement ne me sont ni payées ni données sous forme de temps à récupérer, que les nantis d'agents de fonctionnaires de mon établissement commencent leur travail à 6 heures tous les matins pour que le grand-père ou la grand-mère de cette dame puisse terminer sa vie dans des conditions décentes, que le seul privilège de ces agents est celui d'avoir les mains dans la merde du matin au soir, car dans les maisons de retraite, on ne rencontre pas le troisième âge du Club Med. Et si ces agents ont la possibilité de partir en retraite à 30, dès 55 ans, j'estime que c'est amplement mérité. Mais c'est de plus en plus rare, car à cet âge, ils n'ont que rarement 37 années de cotisation. Et si pour cette dame, c'est aussi un privilège de travailler un week-end sur deux, la nuit, les jours de fête, avec des journées coupées qui commencent à 6 heures du matin et qui se terminent bien souvent à 21 heures le soir, pour un salaire voisin du SMIC, je lui précise au passage que les fonctionnaires n'ont aucune possibilité de négocier leur rémunération. Elle est fixée par le ministère selon un statut auquel nul ne peut déroger, alors je veux bien la recruter de suite. J'ai commencé ma carrière dans la fonction publique hospitalière il y a 25 ans, au bas de l'échelle, à une époque où les agents préféraient le secteur marchand, car les salaires y étaient plus attrayants, et qu'aujourd'hui mon salaire est loin d'être celui d'un PDG, malgré d'écrasantes responsabilités. Et si l'on veut absolument mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, que l'on s'attaque au vrai problème en commençant par supprimer le fameux plafond de la sécurité sociale, car il faut savoir que dans ce pays, plus vous avez un salaire élevé, moins vous cotisez à la sécurité sociale et autres organismes. Et il y aurait peut-être alors assez d'argent dans les caisses pour payer les retraites de tout le monde, sans diviser et opposer les différentes catégories de salaires. Merci de m'avoir écouté.
Ouais, bonjour Daniel, c'est Luc Louve. Je suis secrétaire d'un syndicat CFDT en Haute-Loire, dans une région oppositionnelle. François Chérec a donné son accord, a signé la réforme pour les retraites à Farin. Alors que ben, nous ici en Haute-Loire, on est dans la rue, on s'oppose à cette réforme. On a pendant des années lutté, on a monté, on a bâti un modèle de syndicalisme qui répondait sûrement à des aspirations, puisque nous sommes la première organisation syndicale dans ce département. Et voilà, tout est anéanti. Nous sommes en grève générale depuis mardi. J'ai prévu d'aller manifester, j'ai appelé tous mes collègues pour aller manifester. On a battu le pavé, on a fait des assemblées générales partout. Mais demain, voilà, je sais pas, qu'est-ce que je vais faire, comment on va se comporter, est-ce que j'aurai le courage de manifester sous la bannière CFDT. C'est la merde. Je crois que, honnêtement, c'est un traître. C'est véritablement un traître. C'est un coup de poignard dans votre dos. Je peux pas te dire la haine que j'ai pour cette personne. Voilà, salut Franck. Salut Daniel. Je savais pas qui faire part de mon désarroi. Voilà, je pense à toi. Merci de transmettre, passer ce message en antenne. Au revoir.
Oui, bonjour Daniel, bonsoir à toute l'équipe. C'est Didier d'Alençon qui vient de recevoir un coup de massue sur la tête, faisant partie en fait syndiqué au SGEN CFDT, syndicat d'enseignants. Je remercie la démocratie qui permet de prendre position en nom de quelques-uns et pour quelques-uns, mais c'est pas grave. Je crois que la lutte va continuer. Dans mon établissement scolaire, nous sommes pas tous en grève, mais je crois que ça va démultiplier au contraire l'action dans les semaines qui viennent. Donc au 25 mai à Paris et à lundi sur Caen. Merci, au revoir.
Salut, c'est Daniel Mermet. Là-bas, si j'y suis, le répondeur pris en otage par les usagers.
Flight number 2, arriving from
New York. Jérôme, à Meximieux. Je viens d'écouter une série de communications sur votre répondeur et je suis attristé. Je suis attristé de voir l'archaïsme de toutes ces remarques qui sont fondées. Il n'est pas question, bien évidemment, de penser que des gens qui sont soit ouvriers, soit enseignants, ou qui ont des parents ouvriers, ce ne sont pas les seuls. Il ne faut pas croire que la France est faite uniquement de patrons. D'entendre un discours, mais qui date, puisque je suis à la retraite maintenant, mais comment peut-on encore parler, dans certains cas, avec autant de bonne foi, bien évidemment, avec autant de... Il n'y a pas d'autre terme que l'archaïsme. Est-ce qu'il existe un autre répondeur ou des gens de progrès, des gens, je dirais que vous êtes pratiquement pour moi des réactionnaires. Vous êtes la réaction à l'état pur qui empêche la France d'avancer et qui fait que, d'une certaine manière, si elle a des difficultés, ce sont ces gens jeunes et vieux qui parlent, encore une fois, avec toute bonne foi, et à qui vous prêtez un micro. Est-ce qu'il pourrait y avoir un autre micro et un autre répondeur, ou des gens jeunes qui croient en l'avenir de leur pays tiendraient un discours plus sympathique et plus vrai et plus efficace? Merci.
Salut, c'est Julien de Paris. Je suis jeune et moi, ces histoires de retraite, ça me gonfle. Je dis à tous les jeunes, regardez vos parents qui manifestent et qui refusent l'effort qu'entraîne l'allongement de la vie Et c'était eux-mêmes qui, déjà en 68, manifestaient contre les carcans étouffants de la société et de leurs propres parents. Aujourd'hui, cette génération égoïste s'accroche à ses petits avantages, mesquins comme des petits bourgeois gâtés, et prête à condamner l'avenir de ses propres enfants, qui aujourd'hui, étudiants ou jeunes travailleurs, vivent dans la galère. Et même si Raffarin est autant anti-jeune qu'anti-vieux, l'argent pour la jeunesse, merde, et pas pour les vieux. Pour l'éducation, pour la formation, pour l'enseignement. Et je suis dégoûté aussi de voir que les profs manifestent, alors qu'on leur demande simplement 2 années de plus, est-ce qu'ils font le plus beau métier du monde ou pas. J'aimerais le savoir. Voilà.
Ouais, salut Mermet, c'est Quentin à La Réunion. Futur bachelier, mais en totale solidarité avec les grèves des professeurs, parce que bon, faut que tu saches qu'ici à La Réunion, ça bouge énormément, il y a des épreuves de BTS qui sont bloquées. Enfin bref, depuis un mois, plein de professeurs, pratiquement tous les établissements sont en grève, donc ici aussi on bouge. Bon, je voudrais aussi dire 2 choses. Je suis assez consterné par l'apathie de la jeunesse qui, comme pratiquement toujours, avale ce que les médias nous servent et ne sont absolument pas mobilisés. Donc je trouve ça assez désolant. Et puis autre chose, bon bah critiquer les médias, franchement, qui parlent même pas du mouvement alors qu'il y a des trucs énormes qui se font partout en France. Enfin, je trouve ça scandaleux. Enfin bah voilà, bah continue ton émission et puis à plus. Salut.
On n'a pas voté pour le libéralisme. On n'a pas voté pour le libéralisme. On n'a pas voté pour le libéralisme.
Coup de gueule est à dame, mais ça va plus loin que ça. Décentralisation, retraite, non-renouvellement des postes, etc., ça va plus loin que ça. Indéniablement, quelque chose se donne à entendre sur notre petit répondeur de là-bas, si j'y suis, qui n'a rien de scientifique, qui est un petit... autant de petites puces à l'oreille qui sont déposées dans ce répondeur, mais qui disent, vous allez voir, vous allez entendre, quelque chose quand même de profond, quelque chose de lourd, quelque chose qui... de sourd aussi, qui sourd au sens de sortir, qui cherche à sortir des consciences et de l'inconscient aussi sans doute de notre pays actuellement. Et depuis, ça fait un bout de temps quand même que ces mouvements, surtout au niveau des enseignants, s'est enclenché. Et écoutons ce que notre boulot là, c'est de faire entendre aux uns ce que pensent les autres, comment les uns et les autres vivent ces semaines, ce mai, cet esprit de mai, avec l'idée que il y a une profondeur là-dedans, il y a une profondeur de champ, il y a une profondeur de sens, il y a une profondeur politique aussi, tout simplement.
Je suis attentif à ce qui se passe dans les manifestations. Je lis les pancartes, j'écoute les slogans.
Daniel, je suis directrice de CIO, je t'appelle de la Guadeloupe. Je suis très en colère à cause de tous les projets gouvernementaux de disparition des services publics et de décentralisation des conseillers d'orientation psychologues, assistants sociaux et médecins scolaires. Je me demande qui va prendre en charge à l'intérieur des établissements, collèges, lycées, lycées professionnels, les difficultés psychologiques des élèves, des difficultés d'orientation des élèves qui subissent par ailleurs dans leur vie privée les violences, les difficultés à communiquer avec leur famille, les difficultés de tous ordres qui font que le système éducatif ne peut pas peut-être rendre tout ce qu'il pourrait. Ce sont des freins énormes et je pense que ce seront des services privés payants puisque les CIO vont disparaître, les centres d'information et d'orientation vont disparaître à partir de janvier 2004. Je suis aussi très en colère de la manière dont le ministre nous a adressé une lettre type pour nous dire que puisque on n'aurait plus besoin des directeurs de CIO, nous pourrions devenir chef d'établissement, puisque là il y a beaucoup de postes à pourvoir. Je trouve que ça c'est une forme de violence. Je trouve que nous priver de ce système système démocratique des services publics gratuits est une forme de violence adressée au peuple français qui a quand même fait énormément pour que ces services existent. Ça fait partie de notre culture et je suis vraiment convaincue que c'est le début d'une violence dont on ne verra que le début et pas la fin.
Bonjour Daniel, Alice de Lille. Rigolant avec les hommes politiques, Madeleine aurait déclaré que ça ne serait pas si mal de revenir au 19e siècle. Ouvrons le livre d'histoire, ça tombe bien, je suis étudiante en histoire. La politique de l'État au 19e siècle est celle de l'État gendarme. Son action se limite au maintien de l'ordre et de la sécurité, avec un petit rôle économique. Tiens, tiens, rappelons que pour les libéraux de l'époque, la croissance économique doit assurer à terme le progrès social et surtout pas la législation. La charité publique au 19e siècle avait pour principal problème de distinguer le bon pauvre, l'handicapé, le vieux, celui qui est involontairement pauvre, du mauvais, les paresseux et alcooliques qui auraient fait le choix de ne pas travailler. Conclusion, aller tout faire exploiter en intérim. Vers 1890, on a réfléchi à une loi sur les retraites. Certaines catégories professionnelles pouvaient cotiser pour toucher une misère à partir de 65 ans. Seul problème, l'espérance de vie s'élevait à 50 ans pour les ouvriers de l'époque. À quand la retraite à 90 ans? Ce ne sont que quelques exemples tirés de mes cours. Seulement m'a poussé à demander à ma prof si elle n'avait pas l'impression de faire des cours d'actualité. Le 19e siècle, c'était hier. N'ayons pas la mémoire courte, battons-nous.
Bonjour, je suis très inquiète en tant que maman de Bastien qui veut devenir un site, de Chloé qui est collégienne et grand-mère aussi d'un petit-fils. Je soutiens les profs du lycée Olivier de Manille à Cahors qui sont en grève. En effet, que vont devenir nos écoles, collèges, lycées, universités et nos retraites? Ah, le gouvernement a trouvé un très bon moyen pour solutionner le soi-disant problème des retraites. À 50 ans, nous sommes foutus à la porte. À 70 ans, nous mourrons, ou presque. Alors, aux larmes, citoyens. Au revoir.
Bonsoir, Daniel. C'est encore Hélène qui est prof à Falsbourg, quelque part en Lorraine, et c'est loin. Permets-moi de répéter mon message. Il faut renvoyer les livres à Luc Ferry, pas les jeter dans la rue, comme à Rodez. Parce que des profs ne peuvent pas jeter des livres dans le caniveau. Pas des livres, pas des profs. Alors renvoyez-les 110 rue de Grenelle 75 007 dans une pochette poste libre à 4,38 €. Luc Ferry sera obligé de les expédier au pilon.
Incapable de me lever par ma propre volonté, j'attends avec impatience les grands progrès de la science. Je suis si mou, je rebondis partout. Je suis si mou, je rebondis partout. Allez, faut y aller. Allez, faut y aller.
Oui, mais où?
Allez, faut y aller.
N'importe où.
Allez, faut y aller. Forcé de me résilier à ma franche passivité, j'attends avec incontinence les grands progrès de la France, de la tolérance et surtout de mes finances. Je suis si mou, je rebondis partout. Je suis si mou, je rebondis partout. Allez, faut y aller. Allez, faut y aller.
Oui, mais où?
Allez. Faut y aller, allez, faut y aller.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe, c'est Elisabeth, je suis médecin d'éducation nationale, je fais partie de ces gens qui se sont mobilisés dès l'annonce de la décentralisation et pour protéger non pas leur statut personnel de fonctionnaire, parce que je serais peut-être même mieux payé à la territoriale, mais pour protéger vraiment, fondamentalement, le statut des enfants dans l'école. Je viens d'écouter dans ton émission, on va dire, le condescendant du MEDEF, qui parle de corrélation entre journées de mobilisation et le chômage en France. Ben, puisqu'on est dans le chapitre des corrélations, moi je veux lui dire clairement que l'économie ultralibérale, elle a aussi des corrélations avec la santé publique. Que 15 ans d'expérience de Thatcher en Angleterre, ça a fait des corrélations certaines avec le hooliganisme, avec un alcoolisme massif des jeunes, avec chez les jeunes filles 8% de grossesse précoce avant 15 ans, parce que quand des jeunes filles sortent sans aucune formation, parce que personne s'est préoccupé des écoles pour pauvres, eh ben elles n'ont pas d'autre choix que de devenir mère de famille pour avoir une identité sociale. Qu'aux États-Unis, dans certains quartiers et pour certaines ethnies, l'espérance de vie régresse par rapport à il y a 40 ans. Par exemple, l'espérance de vie de certaines populations noires américaines dans les quartiers pauvres de New York est égale à celle d'un Indien du Bangladesh. Et qu'on limitera pas le crack en construisant de plus en plus de prisons, toujours pour pauvres. Je voudrais rappeler une expérience personnelle. Il y a plus de 15 ans, je faisais des remplacements de médecin généraliste dans une banlieue, plus que banlieue, avec émeute et tout le tintouin. Et les flics de la ville où je travaillais venaient de recevoir leurs homologues de New York, qui avaient eu pour première question « Vous avez combien de morts par semaine ?» Et les flics de France, ils en étaient restés, pardonnez-moi l'expression, sur le cul. Bah, c'est vrai que c'est des choix de société, mais le fait d'être à ce point condescendant parce que les gens sont pas du même avis que vous est insupportable. Donc oui, les politiques, ça a des effets, et ça a des effets aussi en matière de santé, c'est ce que je voulais dire. Bon, bise à tout le monde, on continue la lutte, on continue à mobiliser pour l'école, parce qu'on aime l'école, et moi j'aime même dans l'école les enfants que l'école a du mal à aimer. J'ai une adresse internet, je serais tout à fait d'accord pour parler aux journalistes de ce que c'est qu'être un médecin de l'éducation nationale dans une ZEP zépissime. Je vous embrasse tous.
Mobiliser cette femme médecin, mobiliser les auditeurs de là-bas si j'y suis, dans le répondeur, beaucoup de messages pointus, un peu trop longs parfois, on sent que ça a attendu longtemps, ça fait longtemps, ce sont des choses que vous aviez envie de dire. Essayez de pas faire trop long pour qu'on puisse en passer le plus possible. Laissez vos coordonnées comme cette auditrice l'a fait. Ça nous permet de vous rappeler, de lancer les sujets, de bavarder avec vous pour essayer de comprendre un peu mieux et de choisir le mieux possible, au mieux possible parmi ces messages. C'est une torture à chaque fois. On dit celui-là, est-ce que ça représente plus? Est-ce que c'est plus représentatif? Est-ce que ça, c'est mieux dit? C'est mieux? Pas facile du tout, mais enfin voilà, aujourd'hui vos messages et uniquement vos messages au 01 56 40 37 37, le répondeur de la base suffisante.
Nous sommes vraiment favorables au dialogue social.
Bonsoir, voilà, je suis enseignante en grève depuis le 6 avril. J'étais à la manifestation à Rodez pour accueillir Monsieur Ferry. Je voudrais témoigner de ce qui s'est passé. Nous étions environ 3000 et nous n'avons pas pu rencontrer le ministre. Il est rentré par une porte dérobée. Et surtout, j'ai eu l'occasion de parler avec les journalistes qui m'ont dit que les gens qui étaient dans la réunion étaient vraiment triés sur le volet et qu'il trouvait ça lui-même lamentable. Je lui ai demandé s'il allait en parler dans les médias. Il m'a répondu que non. Nous sommes restés un long moment. Et surtout, ce que je voulais dire par rapport aux gens qui appellent et qui disent qu'ils sont pas contents à cause des grèves, je voudrais qu'ils s'interrogent sur la façon dont l'information est faite, parce que j'ai regardé les informations régionales, on s'est arrêté dans un café avec les collègues, et on a montré des gens qui braillaient parce qu'ils étaient pas contents, et d'autres qui étaient en réunion et qui avaient l'air de bien s'entendre, mais à aucun moment on a parlé de pourquoi nous on était dans la rue, et pourquoi, et eux, de quoi ils ont parlé dans leur réunion où il y avait apparemment que des élus. Donc voilà, on a montré des images de gens excités, d'autres bien calmes, et puis finalement, le citoyen, il sait rien du tout, quoi. Alors, si vous pouviez parler aussi de la GCS, de la Cour Générale sur le Commerce des Services, qui tend à libéraliser tous les services publics partout en Europe et partout dans le monde. Voilà, moi je suis Florence Gaillery de l'Aude, je suis une enseignante spécialisée, je travaille dans un RASED. Et nous aussi, on est appelés à disparaître parce que nos missions, c'est de redonner l'envie d'apprendre et de restaurer l'image de soi chez les élèves. Et je pense que ça n'intéresse pas du tout le ministre actuel. Il faut savoir qu'il n'est plus ministre de l'Éducation nationale, mais ministre chargé de l'Éducation. Voilà. À bientôt et merci pour vos émissions. Au revoir.
Oui, salut, c'est Grégory de Montpellier. Je voudrais vous lire l'appel signé par la coordination des établissements du second degré de Montpellier, qui a été voté à l'unanimité le 15 mai à Montpellier. Voilà, sous couvert de décentralisation, le gouvernement Raffarin procède au démantèlement de l'éducation nationale pour permettre la marchandisation et la privatisation du service public d'éducation. Le dynamitage de l'éducation nationale auquel nous assistons n'est qu'un préalable à l'ouverture des services publics aux investissements privés, qui se concrétisera par la signature fin 2005 de l'accord général sur le commerce des services. En effet, au sein de l'Organisation mondiale du commerce, l'Union européenne négocie depuis 1994 et à l'écart de tout débat démocratique, le cadre juridique d'une libéralisation totale du commerce des services à l'échelle mondiale. La GCS signée, plus aucun service public ou d'intérêt collectif ne pourra échapper à la libéralisation, c'est-à-dire à la mise en concurrence avec le privé à l'échelle internationale. Nous, personnel d'éducation, citoyens, citoyennes en lutte, réunis au sein de la coordination des établissements du second degré de Montpellier, affirmons que la politique éducative ne peut pas être soumise à la logique marchande de l'OMC et exigeons le retrait immédiat de notre gouvernement des négociations de la GCS pour que l'éducation reste nationale, publique, laïque et gratuite. Voilà, bon courage.
Alors ce type de message, on a beaucoup, beaucoup qui essayent de relier les mouvements actuels, les manifestations actuelles avec cet AGCS, avec ces accords, cet accord général sur le commerce des services. Et beaucoup d'auditeurs qui laissent des messages voient un lien évidemment entre ces réformes et ce projet, qui est plus qu'un projet maintenant, puisque ça a été adopté, et qui est en voie d'application, c'est la charge qu'on a à l'OMC. Et c'était précisément notre sujet aujourd'hui, voilà, avec, on avait prévu hein, aujourd'hui de vous présenter ça, un sujet sur l'OMC avec Suzanne George, et des reportages dans une petite poste, une petite école du Poitou, et ben, vous avez pris le répondeur en otage, mais dans les jours qui viennent, je pense demain, on traitera de ce sujet qui, à la fois, est très simple. Effectivement, il s'agit tout simplement de faire de la vie une marchandise, que tout dans la vie devienne marchandise, notamment les services, évidemment, dont l'éducation nationale, qui n'est plus nationale, fait partie. Effectivement, là, il y a quand même un jeu sur les mots qui en dit long. On essaiera de vous expliquer ça le plus clairement possible demain. Pour l'instant, message.
Eh bien, après les journées d'inaction fériées, les ponts, la RTT, voici ce qu'on appelle une journée d'action, c'est-à-dire une journée de grève.
La libéralisation des services profitera essentiellement aux multinationales qui dominent le marché mondial.
On verra les conséquences de ces journées pendant lesquelles la France ne travaille pas, dans le chiffre du chômage.
Le chômage, c'est un bon chien de garde. Gentil travailleur, sois bien sage, sinon gare au chômage.
Alors si la France ne se gouverne pas dans la rue, le MEDEF vous dit qu'elle s'appauvrit dans la rue. Le MEDEF, bien entendu, dit aux Français de choisir.
Salut Daniel, c'est Francine de Loire-Atlantique. Voilà, je te donne mon CV. J'ai 40 ans, 4 enfants. Je travaille depuis l'âge de 17 ans. 22 ans, premier enfant, début du mi-temps pendant 8 ans. 30 ans, licenciement, reconversion professionnelle, 4 ans d'études. 34 ans, reprise du travail, toujours à mi-temps, pour m'occuper de mes enfants. Si je fais mon calcul, même si maintenant, à partir de 40 ans jusqu'à 60 ans, je travaille à plein temps, j'aurais cotisé 32 ans. Si je calcule bien, je dois travailler jusqu'à 70 ans pour avoir une retraite à taux plein. Ou alors, 30% de pénalité. Merci, monsieur Chérec, pour avoir fait la courbette. Moi, je sens que la courbette, je la ferai bien avant 70 ans. Politique d'homme, décision d'homme, c'est encore les femmes laissées pour compte. Je pense que je ne suis pas la seule. À salut, à bientôt.
Une dame, enseignante, professeure d'université, elle n'a jamais quitté l'école. Elle n'a jamais vraiment grandi, a jamais vraiment compris qu'il y a des choses qui bougeaient, qui changeaient, et que bah, il va falloir s'adapter. Ça va lui faire mal, je crois, un jour. Mais je doute qu'elle atteigne ça. Bourrée de fric, tranquille, le privé lui paye sa retraite, lui payera une belle retraite, parce que je crois qu'effectivement elle va bien s'en tirer. Même quand il y a la grève des transports, elle arrive quand même à trouver des transports pour aller à son université, n'est-ce pas? C'est génial, c'est quand même extraordinaire, elle n'est pas gênée. Bah oui, il faut dire qu'elle a des horaires qui doivent pouvoir s'adapter et que de toute façon, elle sera payée. Donc, elle n'a peut-être rien à foutre. Une mauvaise foi. Qu'elle sache quand même que les gens qu'elle emmerde, eh bien, c'est eux qui payent sa retraite. Mais peut-être que c'est ça qui l'a fait jouir, après tout. Je sais pas. J'aimerais bien comprendre comment ces gens qui sont jamais sortis de l'école arrivent à grandir. Parce qu'en fait, c'est ça. Jamais ils sont sortis de l'école. Infantile, peut-être? Enfin bon. Allez, bye bye. Salut Daniel.
Je suis salarié de droit privé dans une entreprise contre des fonctionnaires. Et je voulais réagir sur le l'allongement de la durée de travail. Notre syndicat a chopé un document qui circule dans la direction et ce document incite les personnes à partir soit en pré-retraite pour les droits privés, soit en cessation d'activité, enfin pour les fonctionnaires. Et dans ce document, il y a un paragraphe indiquant pour les salariés qui refusent de partir, donc les mesures, enfin ce qui est conseillé, donc les augmentations individuelles du fixe doivent être établies à zéro, et ceci même si le salarié fournit une contribution de qualité. Un moyen de conviction peut résider dans l'affectation du salarié sur un poste plus exposé et plus lourd en termes d'objectifs à atteindre et de contenu d'activité, avec l'organisation d'un suivi d'un reporting contraignant. Voilà, bon, et à part ça, bon, ouais. Sinon, pour ceux qui peuvent venir au 19 mai, merci.
Malgré leur arrogance et leur prestance qu'ils se donnent, nos gouvernants devraient se souvenir qu'à force d'être brimés, appauvris, pris pour des cons, les Français d'un certain siècle n'ont pas hésité à se munir de fourches pour décaniller hors des palais ceux qui se goinfraient et n'ont pas hésité non plus à couper certaines aides couronnées. Dans ce monde, personne n'est à l'abri de rien, pas même les puissants. Quant à Antoine Célière, qui gagne mensuellement mon salaire de 12 ou 15 ans de travail, il ferait mieux de fermer sa bouche en cul de poule au lieu de jouer au moralisateur qui ne voit au travers de cette grève qu'une perte de ses propres intérêts. Nous faire travailler jusqu'à 65 ans, voire 70 ans pour certains, c'est peut-être bien dans l'esprit de nos gouvernants, mais alors, avant de mourir, combien de mois ou d'années nous restera-t-il pour apprendre ce qu'est la sérénité, voir grandir nos petits-enfants ou apprécier quelques loisirs? Tous nos politiques se foutent pas mal de nos sentiments, de notre envie d'être longtemps alerte pour profiter des promenades en famille, ou avec un peu de chance, pouvoir s'offrir un petit voyage. Car eux, bien avant l'âge de la retraite, ils auront profité de la vie, de beaux voyages, de belles réceptions, de vacances au soleil, de ski l'hiver, de voitures avec chauffeur, de tables toujours bien garnies et de gras comptes bancaires. Ah non, à l'âge de la retraite, il faut avouer que ces messieurs ne seront pas usés par le travail ni les restrictions. C'est pourquoi ils auront encore beaucoup, beaucoup de temps pour rédiger leur mémoire afin de laisser trace de leur oisiveté et surtout de leur connerie. Je vous embrasse fort. Moi, je suis de Gaillac, je suis du Tarn. C'est un beau pays, il fait soleil. Bisous.
Bon, écoutez, le MEDEF sait ce que c'est que les manifestations puisqu'il y en a pratiquement tous les jours.
C'est incroyable, monsieur le baron. Ne trouvez-vous pas ce mot difficile? Hier encore, je voyais
à la télévision. Des tas de pauvres qui hantent nos villes.
Madame la marquise, vous vous trompez, vous n'avez pas bien vu. Des pauvres, madame, il faut que je vous dise, la belle lourette, il n'y en a plus. Si vous ne voulez pas que vous en mélise, dans les soirées où l'on devise, employez les termes les plus décents, on dit exclu car pauvre les galants.
Je vous remercie, monsieur le baron, au jour d'aujourd'hui qu'il est donc difficile d'exprimer toute indignation sans passer pour une imbécile.
Je voulais donner un témoignage personnel, mais qui prend un sens en ce temps révoltant où le gouvernement crache sur l'école publique et où de savants spécialistes nous expliquent que l'éducation nationale est très médiocre. Voilà, je suis arrivée en France sans savoir un mot de français, pas plus que mes parents, à l'âge de 10 ans. J'ai débarqué dans une école de banlieue et je n'oublierai jamais l'institutrice qui, en moins de 3 mois, m'a appris français. Il m'a si bien donné le goût de cette langue que j'ai fait plus tard des études de lettres et une grande école. Je tenais à la remercier et avec elle mon prof de 6e, 5e qui nous faisait faire du théâtre dans un collège en préfabriqué, mon prof de 4e, 3e qui nous lisait Apollinaire avec sa voix douce et grave que même les cancres écoutaient, mon prof de seconde qui m'a fait découvrir Paris, mon prof de première qui nous délectait par ses explications de textes sur Montaigne et Hugo, mon prof de philo de terminale, qui nous a initiés à une discipline merveilleuse, qui n'est enseignée qu'en France au niveau du bac, et qui fait que beaucoup de gens de ce pays, sans avoir fait d'études supérieures, savent penser par eux-mêmes. Je voulais ajouter aussi que ce n'est que dans les classes préparatoires des grands lycées parisiens et dans la grande école où j'ai été admise, que j'ai rencontré des gens prêts à maudire l'école publique, parce qu'ils n'y avaient jamais mis les pieds auparavant, ou parce qu'ils étaient xénophobes, ou sectaires d'une religion. Voilà, je vous embrasse fort.
Mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement de poltron ? Bon, je sais bien que la pente est forte, mais enfin quand même, il faut pas reculer comme ça. Raffarin qui annule un déplacement à Périgueux, Ferry qui annule un déplacement en Corrèze, mais ils ont peur de quoi ? C'est pas la rue qui gouverne. Ils vont pas se laisser intimider par quelques manifestants. Oh non, franchement, je suis déçu. Ah, oh, je suis déçu, oui, vraiment, beaucoup. Enfin, la lotta continua.
Voilà, les choses sont claires. Manif, manif partout, manif à Paris. Très beau message hein, de cette femme qui raconte comment ce qu'elle doit à cet enseignement public. Et si effectivement certains dans l'enseignement se sont donnés pour tâche d'apprendre aux élèves à penser par eux-mêmes, apprendre à penser par soi-même, eh bien, il semblerait qu'effectivement, dans certains cas, ce soit réussi et qu'aujourd'hui, ça se retourne contre des politiques
qui, de toute évidence, menace l'enseignement public. C'est au moins ce qu'on entend, et de nombreux messages, je le répète, sur le répondeur de là-bas, si j'y suis.
Je ferai cette réforme parce que c'est l'intérêt du pays. En clair, le Parlement doit décider, le doit s'exprimer, et c'est pas lui qui nous a.
Salut Daniel, aujourd'hui à l'école où je travaille, j'ai eu l'interrogation d'une petite fille qui me disait « C'est vrai Arnaud que Jacques Chirac, il veut pas que tu restes à l'école et qu'il faut que tu partes ?» Et oui, je suis éducateur, oui, les emplois jeunes de l'éducation nationale. Et depuis la rentrée de septembre dernier, nous sommes en grève régulièrement 2 à 3 jours par mois, et ce, parfois beaucoup plus pour certains de mes collègues. Nos postes ne seront jamais pérennisés et je viens d'apprendre la suspension des financements de nos formations. Il m'a fallu cet événement pour me rendre vraiment compte de tout le mépris qu'affiche Ferry et tous ses petits copains du gouvernement à notre égard. Aujourd'hui, nous n'avons plus de solution pour réussir une reconversion digne après la fin de nos contrats. Me voilà condamné à compter les jours qui me séparent de mon inscription à la NPE. Mais en ces beaux jours de protestation, j'ai juste une petite pensée pour ma grand-mère, émigrée espagnole, qui dans les années 70 refusa de serrer la main que lui tendit Chirac, alors de passage pour je ne sais quelle raison obscure dans son petit bar populaire et rouge. Ce même Jacques Chirac pour qui j'ai dû voter l'année dernière lors de mes premières élections présidentielles et qui aujourd'hui détruit toutes mes chances de réinsertion en vue de la fin de mon emploi jeune. Mais c'est pas grave, je garde le moral, la vie est belle. Salut Daniel, c'était Arnaud, les Pyrénées Atlantiques.
Bonsoir, c'est Nathalie de Massy dans l'Essonne. Ben, j'appelle suite au message jeudi 15 mai d'un étudiant de 25 ans qui faisait part de sa colère à l'égard des agents de la RATP qui ont eu la mauvaise idée de faire grève le jour où il devait passer son concours d'assistant bibliothécaire à Marne-la-Vallée. Ben, moi-même, j'ai passé ce concours à cette même date. Oui, j'ai aussi eu du mal à me rendre sur le lieu de l'examen, mais c'était jouable. Je préciserai quand même qu'il y avait le même pourcentage de personnes présentes que lorsqu'il n'y a pas de grève. Enfin, de toute façon, si cet étudiant échoue à son examen, il aura une excuse en or. Il pourra toujours dire que le stress provoqué par l'absence de RERA l'a déconcentré. Puis s'il obtient son concours, ben j'espère qu'il n'aura pas à exercer son métier jusqu'à 67 ans, avec son sonotone et ses rhumatismes. Moi, en fait, j'ai eu qu'un regret mardi 13, c'est de ne pas avoir pu me joindre à la manifestation parisienne avec ma famille et mes amis. J'en profite justement pour remercier les cheminots et les agents de la RATP qui, en faisant grève, ont exprimé leur solidarité avec tous ceux qui refusent le plan Raffarin-Fillon et aussi la décentralisation pour l'éducation nationale. Les cheminots et les agents de la RATP, ils sont souvent aux avant-postes pour protester contre des projets de loi iniques et les Français seraient bien avisés de se rappeler qu'ils donnent l'impulsion qui est indispensable à de grands mouvements populaires qui sont les seuls à même de faire reculer un gouvernement. Je vous remercie de m'avoir donné la parole et puis rendez-vous pour la grande manifestation du 25 mai.
Alors, tous ceux qui pensent que on va s'en sortir en travaillant moins et qu'on va pouvoir continuer à assurer l'avenir de notre pays et celui de nos enfants en se mettant les doigts de pied en éventail, en défendant nos petits privilèges mesquins et égoïstes, et accessoirement en prenant nos chers concitoyens en otage à tout instant, nos enfants à l'école qui ne peuvent plus suivre leurs cours, nos avions et nos trains qui ne décollent plus ou qui ne partent plus, nos autoroutes qui sont bloquées. Si on pense qu'au nom de la démocratie, on peut empêcher les gens et de travailler et de circuler, et si l'on s'imagine que ceux qui payent cette situation, ce sont évidemment et encore toujours les plus faibles, eh bien, on se dit que l'avenir de notre pays n'est pas rose, sans jeu de mots. Alors, j'invite tous mes concitoyens à se réveiller, à se bouger le cul. L'espérance de vie n'a jamais été aussi longue et on continuera à pouvoir augmenter notre espérance de vie. C'est pas en travaillant moins qu'on va s'en sortir. Les Français sont ingouvernables. Ils veulent des réformes et chaque fois qu'il y en a qui sont proposées, ils sont pas d'accord. Je ne sais pas s'ils mesurent les bienfaits de vivre dans un pays comme le nôtre. Apparemment, ça leur passe complètement à côté. Tous nos autres voisins ont fait ce qu'il fallait faire pour avancer et progresser dans les grandes réformes indispensables. Il n'y a que nous, les pauvres Français, ces pauvres cons qui savent faire qu'une chose, c'est gueuler. descendre dans la rue, râler.
Salut, c'est Christophe Etchegui, Crozille. Voilà, salut Daniel, je t'appelle de Tours où je n'habite pas, parce que ce matin, avec beaucoup de mes collègues enseignants, nous manifestions ce matin donc à Tours devant l'inspection académique. Nous avions rendez-vous à 10h pour venir déverser le bouquin de Luc Ferry qui contient au fait une grosse faute d'orthographe. Et devant l'inspection académique, à un moment donné, une de mes collègues que je ne connaissais absolument pas, qui doit peser 45 kilos à tout casser, a essayé d'empêcher que l'on ferme les portes de l'inspection académique. Deux flics, un en tenue, un en civil, se sont précipités sur elle pour la secouer comme un prunier pour qu'elle lâche la porte. Ça s'est passé à 5 mètres de moi. Donc, j'y suis allé pour lui donner un coup de main, tenir la porte et les empêcher de la secouer. Malheureusement, un troisième flic que je n'avais pas vu qui se trouvait derrière moi est arrivé et m'a gazé à bout portant en plein visage. J'ignorais complètement parce que j'ai été immédiatement aux urgences dans un des hôpitaux de Tours, mais la séquence a été filmée, paraît-il, par LCI et par TF1. Elle a été diffusée, paraît-il, au moment où je me faisais soigner, sur TF1 et sur LCI. Alors voilà. Voilà, au cas où on se posait encore la question, voilà ce que fait l'inspection académique, voilà ce que font nos édiles lorsqu'on vient protester. On gaze. Après, on se demandera pourquoi, à terme, le Conseil d'État recommande que uniquement la police et l'armée soient les derniers services publics à ne pas être décentralisés et à rester aux mains de l'État centralisé. Allez, ciao Daniel, merci.
J'écoutais l'émission en voiture et j'avoue que Coluche nous manque.
De Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean, sur une musique de Pierre Bénichou et Marie Groupière, Misère. Misère, je vous le dis tout de suite, c'est le nom qu'un type a donné à son chien, parce que il est comme lui, il l'a trouvé dans la rue, si vous voulez, et que il est comme lui, alors il le comprend, parce que comme il est né dans la rue aussi, il le comprend. Je me comprends. Des fois, on a plus de contact avec un chien pauvre qu'avec un homme riche, hein. Là, dans la gueule. On prend plein la gueule, ils s'en rendent pas compte. Le tirer là-dedans, il fait chaud. De Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean, sur une musique de Pierre Bénichou, Marie Groupière. Misère. Je vous le dis tout de suite, la chanson ne passe pas à la radio, hein. Vous la verrez pas à la télévision non plus, hein. Je vous le dis tout de suite, hein. Mais elle s'en fout, elle a quelque chose à dire, hein. C'est pas comme les chansons qu'on voit à la radio qu'on entend à la télévision, hein. Et alors c'est même comme ça qu'on les reconnaît, celles qui peuvent penser à la télévision, hein. C'est parce qu'elles ont rien à dire. Là, bon, et donc, je leur mets dans les yeux. Hein. Chante des conneries, des conneries, des conneries. Je m'excuse, mais merde. Je m'excuse. Hein. Alors tout ça, la chanson est une industrie parce qu'une poignée d'imbéciles a réussi à être moins con que le reste. Il y a de quoi se vanter, je vous jure. Je m'excuse, mais merde. Je m'excuse. Tout ça pour faire du fric et du fric. Voilà. Et pour manger du caviar à la louche. Il faut être snob, hein, entre nous. C'est pas meilleur à la louche. De Jean-Louis Chotard à Gérard Grandjean, sur une musique de Pierre Bénichou et Marie Groupière, Misère. Misère, misère. Quoi, qu'est-ce qu'il y a là? De toute façon, ça va pas durer, hein. Ça va être interdit, la bande forcée, là, comme ils font, là. Parce que si on vous passe des conneries toute la journée, vous finissez par les acheter, hein. Vous n'êtes pas raisonnable non plus. Quand on pense qu'il suffirait que les gens ne les achètent plus pour que ça se vende pas. De toute façon, ça va changer le métier, parce qu'il n'y a pas que dans la chanson que c'est comme ça. Le cinéma, c'est pareil. Moi, j'ai un copain, elle fait un court-métrage sur les chiens d'aveugles. Eh ben, les producteurs en voulaient pas, supposez que les aveugles vont pas au cinéma. Merde! Alors, il était très bien, son film. Hein? Moi, je l'ai vu, ça m'intéresse pas. Moi, je suis ni chien ni aveugle, mais quand même! Il était très bien! Alors, si maintenant, les gens ne s'intéressent plus aux choses qui intéressent pas les gens, supposez que ça les intéresse pas, où on va? Alors, quelle misère! Misère, de Jean-Louis Chotard, alors, Jean-Jean. Misère, misère. c'est toujours sur les pauvres gens que tu t'acharnes obstinément. Misère, misère, ça sera donc toujours les salauds qui nous boufferont le caviar sur le dos. Misère, misère, tu te fais l'ennemi des petits, tu te fais l'allié des pourris, des pourris. L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, ce qui est la moindre des choses. Convenons-en. Misère, misère, peut-être qu'un jour ton président s'entend monter notre colère. Misère, misère, devant les peuples sans frontières, alors il s'en mordra les dents. Misère, misère, tu repartiras d'où tu viens en emportant tous tes chagrins. Tes chagrins. L'argent fera bien le bonheur des pauvres, ce qui sera la moindre des choses. Convenons-en.
Pour le libéralisme, on n'a pas voté. Pour le libéralisme, on n'a pas voté. Pour le libéralisme,
on est tous la roue, la parade, c'est foutu. On est tous la roue, la parade, c'est foutu. On est tous la roue, la parade, c'est foutu. On est tous la roue, la parade, c'est
foutu. On porte la grève générale.
La roue, la parade,
c'est foutu. C'est la grève mardi.
Voilà, merci à toutes et à tous pour ces messages laissés sur le répondeur, dans le répondeur de la base. J'y suis, je rappelle encore une fois le numéro 01 56 40 37 37. Technique aujourd'hui, Lidvine Caron et Olivier Daligo. Assistante Joël Levert, Christophe Imbert se charge du répondeur. C'est Koy Nguyen qui a choisi les musiques du jour et c'est Antoine Chao qui a réalisé cette émission modeste et géniale grâce à vous.